Un porte-avions ultra moderne, ça peut anéantir une flotte ennemie entière en l'espace d'un après-midi.
C'est clair, la puissance de feu est hallucinante.
Sauf que, à quoi bon posséder un truc pareil si l'adversaire en face, il a la capacité de mettre l'économie mondiale à genoux sans même tirer un vrai missile?
Bah, juste en bloquant à Détroit avec une poignée de drones bon marché, ouais.
Exactement. D'habitude, on s'imagine que la puissance d'une nation, ça se mesure de façon très simple, avec des frontières nettes, le nombre de soldats ou des traités officiels, tu vois?
La vieille école de la géopolitique.
Voilà. Mais quand on regarde comment le monde tourne en ce printemps, ben on réalise que les règles du jeu ont totalement changé.
Ah, ça, le changement de paradigme, il est fascinant. Les lignes de front physiques, elles ont laissé la place à des réseaux d'influence invisibles, des architectures technologiques et des batailles d'opinion.
Et c'est exactement ce qui nous réunit aujourd'hui pour cette nouvelle exploration en profondeur. Notre point de départ, c'est une publication hyper dense, l'édition du 11 avril 2026 du magazine e-débat numéro 25.
Un numéro vraiment très riche.
Très riche, ouais, qui rassemble des analyses sur des sujets qui ont l'air super éloignés. On y parle de frappes militaires au Moyen-Orient, de purges politiques à Washington, de sous-marins en Espagne et même d'intelligence artificielle et de philo-allemande du 19e siècle.
Ça fait beaucoup d'un coup, c'est sûr.
Grave. Mais le but de notre session, c'est vraiment de tirer le fil rouge entre tout ça. Comprendre ce que ça veut dire, en fait, d'avoir le pouvoir en 2026.
Pour notre audience.
Ah oui, très important.
Parce que les sources qu'on va décortiquer, elles touchent à des questions politiques qui sont hautement polarisantes, en fait. Les auteurs critiquent frontalement les stratégies de l'administration américaine, ils analysent des conflits meurtriers et ils abordent les tensions diplomatiques entre la France et le Maroc.
Des sujets bien brûlants, quoi.
Exactement. Donc, il doit être absolument clair pour ceux qui nous écoutent que notre rôle ici, c'est pas de distribuer des bons ou des mauvais points. On prend aucun parti, ni à gauche, ni à droite. Notre seul objectif, c'est de synthétiser et d'analyser le plus impartialement possible les arguments de ces documents.
C'est dit, bon, décortiquons tout ça. Si on veut comprendre la souveraineté moderne, faut commencer par le basique, la force de frappe brute.
Le militaire, ouais.
Voilà. Le premier article nous plonge dans le conflit actuel entre les États-Unis et l'Iran avec cette fameuse opération Epic Fury.
Et l'annonce d'un cessez-le-feu de 2 semaines, là, début avril.
Ouais. Et en lisant le bilan matériel dans la source, j'étais un peu stupéfaite en fait. La marine iranienne est décrite comme neutralisée, l'aviation gravement touchée et les sites nucléaires frappés tellement fort que l'AIEA confirme ne plus avoir aucune visibilité.
Plus de caméras, plus de rapports. L'agence est aveugle.
C'est ça. Et pourtant, la source affirme que Washington n'a remporté aucune victoire stratégique. Du coup, comment c'est possible? Comment tu peux pulvériser les infrastructures d'un pays et pas gagner la guerre?
Bah, parce que détruire des infrastructures, ça suffit plus à dicter une issue politique. L'auteur explique que l'Iran possède ce qu'il appelle une bombe économique, en fait.
Ah, le détroit d'Ormuz!
Exactement. Le mécanisme, il est redoutablement simple. Ce couloir maritime, il voit passer genre un quart du commerce mondial de pétrole et un cinquième du gaz naturel liquéfié. L'Iran a absolument pas besoin d'affronter la marine américaine en face à face.
Il ferait pas le poids de toute façon.
Non, c'est sûr. Il leur suffit de déployer quelques vedettes rapides ou des drones asymétriques bon marché pour menacer les cargos. Et là, immédiatement, les assurances maritimes paniquent.
Les primes explosent.
Voilà, les armateurs refusent de passer, les chaînes d'approvisionnement se bloquent et l'inflation mondiale, elle s'envole direct.
Donc en fait, la menace asymétrique annule la suprématie technologique. C'est comme gagner absolument toutes les batailles navales sur ton plateau de jeu, mais tu réalises que l'adversaire a le pouvoir de retourner la table entière en bloquant l'économie mondiale.
C'est une super analogie, c'est exactement ça.
Et sur le plan interne, en Iran, est-ce que cette pression militaire, elle a au moins, je ne sais pas, fragilisé le régime?
Bah, au contraire, en fait. Les auteurs soulignent que le pouvoir s'est carrément durci. Il s'est refermé autour de son noyau sécuritaire avec les gardiens de la Révolution et des figures comme Mujtaba Khamenei.
D'accord, l'effet inverse, quoi.
Ouais. La leçon de ces textes, c'est que dominer le ciel, ça sert à rien si tu maîtrises pas les rouages économiques et politiques derrière. La guerre purement destructrice, elle crée un vide stratégique. Et l'adversaire, il le remplit avec de la nuisance économique. Exit.
Capacité à obtenir une victoire claire, ça trouve une explication vraiment effarante dans un autre article sur les coulisses de Washington. C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah oui, la mécanique interne du pouvoir américain en ce moment.
C'est fou de voir comment l'erreur de calcul se fabrique de l'intérieur, en fait.
Le texte détaille des purges hyper récentes au sommet des États. Pam Bondi, par exemple, écarté à la justice. Le général Randy George, poussé à la retraite par Pete Hegseth à la Défense.
Alors qu'il était chef d'état-major de l'armée de terre, quand même.
Voilà. Mais le cas le plus clinique de la source, c'est la démission de Joe Kent du Centre national de lutte contre le terrorisme. Un loyaliste convaincu, hein, mais il a démissionné parce qu'il jugeait la menace iranienne non imminente et refusait de cautionner l'escalade.
Et la réaction en haut lieu, c'était de le traiter de faible publiquement. Ce que décrit cet article, c'est la destruction méthodique de l'analyse contradictoire.
Totalement.
C'est comme un pilote d'avion qui traverse une tempête monstrueuse. Et au lieu de regarder ses instruments de navigation qui clignotent de partout, il décide de débrancher les alarmes juste parce que ça le stresse et que ça contredit son plan de vol. Il veut juste que son équipage lui dise que le ciel est bleu, tu vois.
Et le pire, c'est que ce débranchement, il est volontaire. Dans une entreprise classique, c'est la réunion où on accepte que les gens qui disent oui. Mais au niveau du Pentagone, les enjeux sont existentiels, quoi.
C'est la fin du fameux red teaming, c'est ça.
Exactement. Cette tradition du renseignement qui consiste à toujours avoir un groupe chargé de contredire l'hypothèse principale. En supprimant ça, l'administration s'enferme dans un biais de confirmation énorme.
Une chambre d'écho.
Voilà. Et les auteurs préviennent que ça augmente le risque d'escalade vers une opération terrestre désastreuse en Iran, juste parce qu'il n'y a plus personne dans la pièce pour dire « les gars, la logistique va être un cauchemar ».
C'est terrifiant. Alors, pendant que les États-Unis s'aveuglent, d'autres acteurs en tirent des leçons. Et là, l'une des grosses surprises du magazine, c'est le réveil stratégique de l'Europe.
Oui, l'Europe s'adapte, c'est indéniable.
Mais avec un exemple très surprenant, la mue militaire de l'Espagne.
Ah, le tournant espagnol, c'est fulgurant. L'auteur parle d'un budget de la défense qui atteint 2,1% du PIB en 2026, avec une cible autant hallucinante de 5% d'ici 2035.
5%, c'est gigantesque.
Ouais. L'industrie de la défense, ça représente aujourd'hui 12% du PIB industriel espagnol. Ça fait plus de 215 000 emplois. Et le texte met en avant des innovations majeures, comme le sous-marin S-80+, ou leur intégration au programme FCAS.
Le fameux avion de combat du futur européen.
Exactement. Tout ça en maintenant des troupes au Sahel et au Liban.
Attends, là, je dois faire une pause. C'est hyper contre-intuitif. Historiquement, l'Espagne, c'est le soft power, non? La culture, le tourisme, une diplomatie plutôt douce. Est-ce que les auteurs disent que l'Espagne a abandonné ça, réalisant qu'il faut un bouclier en acier pour protéger cette culture?
Bah, c'est pas un abandon, c'est plutôt une nouvelle lucidité, en fait. L'article explique que face aux menaces hybrides, le soft power seul, ça sert à rien.
Parce qu'on t'attaque pas forcément avec des chars, c'est ça?
Voilà. Un État hostile peut déstabiliser ta frontière avec du chantage migratoire, saboter tes câbles sous-marins. Être un pays sympathique, ça te protège pas contre ça.
C'est le principe de dissuasion, quoi. Si t'as pas de quoi mordre, tu deviens une cible facile, peu importe ton tourisme.
Exactement. Et c'est là qu'un outil comme le sous-marin S-80+ change la donne. C'est furtif, ça peut rester sous l'eau très longtemps. L'Espagne peut verrouiller le détroit de Gibraltar juste par la présence invisible de ce sous-marin.
D'accord, la souveraineté, c'est verrouiller son espace même sans tirer.
Tout à fait.
Mais bon, la force militaire, même furtive, c'est qu'une partie du problème. La souveraineté, elle se défend aussi sur le terrain des perceptions, la guerre des récits.
Ah, la irréputation, oui. Un sujet passionnant du Magarine.
Ouais, les sources abordent ça à travers les relations très tendues entre le Maroc et les médias français.
En effet, plusieurs articles fustigent la posture des médias français. Ils citent des cas précis, des accusations, lors de la Cannes 2025, l'affaire Pegasus, ou encore ce fameux documentaire « Je t'aime, moi non plus » sur France 5.
Et que reprochent les auteurs à ces médias exactement?
Ils les accusent de caricaturer le Maroc, de se focaliser en permanence sur les années de plomb de Hassan II, tout en ignorant totalement les avancées sociales récentes, la réconciliation menée par l'IIR, et même la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara en 2024.
Du coup, c'est comme évaluer le dernier smartphone ultra-moderne, mais en passant son temps à se plaindre que les téléphones à cadran des années 80 étaient compliqués à utiliser, quoi.
C'est exactement ça, une distorsion temporelle.
Mais ce qui me surprend tous dans l'analyse, c'est que le vrai problème soulevé, c'est pas juste les médias français, c'est la réaction marocaine. Pourquoi un État moderne, qui est hyper fort géopolitiquement, reste-t-il aussi passif sur le plan narratif?
Bah, c'est le grand reproche fait par les auteurs à la télévision publique marocaine. Ils dénoncent une passivité qui consiste à tendre l'autre joue au lieu de riposter.
C'est-à-dire?
En fait, sur la scène internationale, un récit non contesté devient une vérité. Si tu laisses les autres te dépeindre comme archaïque, ça finit par influencer les diplomates, les investisseurs, les députés européens. Ne pas produire de contre-récit offensif, c'est carrément céder une part de sa souveraineté.
C'est dingue. Mais est-ce que ce brouhaha télévisuel dicte vraiment la réalité diplomatique? Parce qu'un autre article contraste justement ce côté émotionnel avec le pragmatisme absolu de l'axe entre le Maroc et l'Espagne.
Et c'est là que c'est fascinant. L'auteur explique que la diplomatie espagnole, elle se contrefiche des états d'âme ou des documentaires. Elle est dictée par des chiffres froids. Genre, plus de 12 milliards d'euros d'exportations espagnoles vers le Maroc, 20 milliards d'échanges totaux et environ 900 000 résidents marocains en Espagne.
Ah ouais. Donc en fait, les États, ils ont pas de sentiments, ils ont des systèmes.
Voilà, le pragmatisme absolu.
La vraie diplomatie, elle se joue pas sur les plateaux télé, mais dans les interdépendances logistiques.
Exactement. Madrid arbitre en fonction de ses chaînes logistiques, pas en fonction du bruit médiatique.
Ok, donc les systèmes économiques structurent la diplomatie aujourd'hui, mais demain. La vraie bataille, elle se déplace vers la technologie, non?
Totalement, vers la gestion du savoir.
C'est là qu'on arrive au méga-projet présenté dans les sources. Un data center pour l'intelligence artificielle à Nouasseur. Un investissement de 1,2 milliard de dollars. C'est l'équivalent de tout le budget Maroc Digital 2030.
C'est énorme. Mais l'auteur introduit un concept crucial ici, le Wald Maalem, l'apprenti formé par le maître artisan.
Je vois l'idée.
En gros, avoir le data center à 1 milliard, c'est bien, c'est l'atelier. Mais si tu crées pas les algorithmes toi-même, tu n'as aucune souveraineté numérique. La source le dit très bien. Si tu ne tiens pas l'aiguille, ce n'est pas ton caftan.
Ah, c'est puissant ça. C'est l'équivalent de construire la cuisine la plus chère et la plus sophistiquée du monde, mais d'emporter toutes tes recettes et d'oublier de former tes propres chefs, quoi.
C'est tout à fait ça, et la source fait une connexion immédiate avec un dernier sujet qui a l'air austère comme ça, la formation des bibliothécaires au Maroc.
Ah oui, j'avoue que le lien avec l'IA n'était pas évident au début.
Et pourtant, c'est vital. L'école des sciences de l'information, ou la licence métier du livre à l'université Hassan II, l'expert souligne le paradoxe, un pays investit des milliards dans les cerveaux artificiels, mais peine à structurer la formation des gardiens de son savoir humain.
Parce qu'il y a une fragmentation des diplômes et un manque de reconnaissance, d'après l'article.
Exactement. Et le truc, c'est qu'une IA, ça s'entraîne sur des données structurées. Si tu ne formes pas les professionnels de l'information pour organiser tes propres données, l'IA sera entraînée par d'autres avec leurs biais.
Donc, si on ne tient pas l'aiguille de l'information, on ne comprend rien de ce qui en ressort.
Tout juste.
Ça soulève une question fondamentale sur comment on fait évoluer notre société, tout ça, les guerres asymétriques, les médias, l'IA. Et c'est là que l'article philosophique prend tout son sens, non?
Absolument. L'auteur rappelle une coïncidence historique incroyable. Jürgen Habermas est mort le 14 mars 2026,
Soit exactement 143 ans après Karl Marx.
au jour près. Et ces deux-là représentaient des visions totalement opposées du changement.
Vas-y, rappelle-nous ça.
Marx, il voyait le changement par le conflit, la révolution, la lutte des classes. Habermas, à l'inverse, il pensait que le changement devait passer par la délibération, l'espace public, le débat rationnel.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour notre époque? Face à des data centers opaques gérés par des consortiums mondiaux et des guerres hybrides, on a besoin de quoi? De la révolution radicale de Marx ou du débat patient de Habermas?
L'expert dans la source apporte une nuance très pertinente. Il dit que les inégalités globales et la concentration du pouvoir technologique, ça donne raison à Marx.
La réalité conflictuelle est bien là.
Ouais, mais en même temps, la fragmentation d'espace public, avec les réseaux sociaux, les bulles algorithmiques, la désinformation, ça rend l'urgence du débat rationnel de Habermas encore plus vitale qu'avant.
Il faut les deux grilles de lecture pour comprendre 2026.
Voilà, les deux se télescopent en permanence.
Eh bien, l'immense terrain qu'on vient de parcourir est fascinant. Si on résume un peu cette exploration, la souveraineté en 2026 est un puzzle hyper complexe. C'est plus seulement une question de bombe, comme on l'a vu avec les États-Unis en Iran ou l'Espagne.
Non, ça va bien au-delà.
C'est une question de récit, avec cette guerre narrative entre le Maroc et les médias français. C'est du pragmatisme économique avant tout. Et surtout, c'est la maîtrise des algorithmes, tenir l'aiguille du caftan.
C'est ça.
Pourquoi notre audience devrait s'en soucier? Bah, parce que quiconque nous écoute navigue chaque jour dans cet écosystème d'infos, en fait. Comprendre qui tient l'aiguille, qui écrit le code ou qui finance le récit, c'est vraiment la seule façon de ne pas être manipulé dans ce nouvel ordre mondial.
C'est clair. Et d'ailleurs, ça m'amène à une dernière réflexion, qui découle un peu de tout ce qu'on a vu.
Oh, vas-y.
Si on construit les superintelligences artificielles de demain en les nourrissant avec les récits médiatiques partiaux et émotionnels d'aujourd'hui, l'IA finira-t-elle par créer l'espace public rationnel dont rêvait Habermas, ou est-ce qu'elle deviendra le dictateur invisible que craignait Marx?
Ouah, ça c'est une sacrée question pour terminer. Ça donne vraiment matière à réfléchir sur qui contrôle nos données. Gardez l'esprit critique face aux torrents d'informations et merci à tous d'avoir suivi cette exploration en profondeur. À la prochaine!
Au revoir!